le chantier des stalles de la cathédrale est un chantier qui est très bien documenté, ou du moins qui semble être très bien documenté par un certain nombre de sources, dont les principales sont les comptabilités de la fabrique de la cathédrale. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait comme travaux à la cathédrale donnait lieu à des paiements pour des ouvriers ou pour des matériaux, et tout ça était enregistré dans des mis dans des registres de comptabilité, et ces registres de comptabilité sont tout à fait intéressants, tout à fait passionnants, surtout qu'il y a eu une lacune importante entre 1435 et 1457, là il n'y a plus rien, on n'a plus un seul registre, et donc quand réapparaissent les registres en 1457, justement, ce qui est important, bah, c'est ce chantier des stalles de la cathédrale qui occupe des pages entières des registres. Et donc, la lacune est d'autant plus dommageable qu'il y a eu, pendant cette période, on a quelques petites notions qui nous permettent de le savoir, il y a eu des travaux dans la nef où on a mis de nouvelles verrières, de manière à ce que la nef soit mieux enluminée, c'est comme ça qu'on dit dans les registres de comptabilité. Et donc, cette nef mieux enluminée, apparemment, a amené les chanoines à se dire que, finalement, les stalles commençaient à être vétustes, commençaient à être vieillottes, et qu'il fallait certainement les transformer. Donc, on a décidé de construire, de faire fabriquer de nouvelles stalles. Donc, ces stalles, vous le savez sans doute, sont dans le cœur de la cathédrale, et les stalles, donc, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais je le mets malgré tout pour le cas, les stalles sont des rangées de sièges liées les uns aux autres, alignées le long des murs du cœur des cathédrales ou des églises collégiales et abbatiales, de manière à ce que les moines soient divisés en deux groupes, ou éventuellement les chanoines quand on est à la cathédrale, pour le chant, la récitation des psaumes, de l'office divin, etc. Donc là, j'ai essayé de prendre quelques photos qui ne sont pas terribles, des stalles de la cathédrale de Rouen. Alors, elles ont beaucoup changé depuis l'époque dont je vais vous parler, depuis le XVe siècle, mais vous voyez, on voit assez bien les rangées de sièges qui, vous le remarquez, ne sont pas totalement collées, là, puisque vous avez trois parties différentes pour ce qui est l'ensemble des stalles du côté droit. Donc là encore, vous voyez, ces stalles telles qu'elles sont aujourd'hui quand on se penche par-dessus les grilles pour prendre une photo, donc ce n'est pas forcément extraordinaire. Et donc, à l'origine, les moines, les moniales, les clercs, donc les chanoines, se tiennent debout dans ces compartiments individuels que sont les stalles, qui à l'époque sont le plus souvent en bois, mais du fait de la longueur des offices, les stalles sont ensuite modifiées et transformées, et on met en place des sièges amovibles, rabattables, sous lesquels se trouve une petite console qu'on appelle la miséricorde, et les miséricordes sont de très belles statues, très souvent très intéressantes sur la société, et chaque fois qu'on peut, dans une église, réussir à regarder les miséricordes, on est toujours frappé par la beauté et puis le caractère extraordinaire de ce qu'on voit. Si vous allez au musée de Cluny, par exemple, il y a quelques stalles qui sont présentées juste après la salle de la Dame à la Licorne, et vous verrez que, si vous ne l'avez pas déjà vu, que c'est tout à fait intéressant. Et donc, cette miséricorde est une sellette dans les textes que nous allons évoquer, et donc elle permet, lorsqu'il faut se lever dans l'office divin, permet de s'appuyer, donc de se fatiguer un petit peu moins. Donc, c'est l'intérêt des stalles, et surtout des miséricordes, que de mettre en place, vous voyez, ce genre de petits rabats sur lesquels on pose ses fesses, en donnant l'impression d'être malgré tout debout. Donc, et vous voyez que là, ça, ce sont des photos que j'avais prises dans une église du Cantal à Saint-Chamond, parce que j'ai pas réussi, évidemment, j'ai pas voulu prendre surtout les photos qui sont dans le petit livre sur les stalles, parce que c'est en noir et blanc, donc c'est moins intéressant. Vous voyez là, par exemple, cette image est tout à fait remarquable, de cette femme qui est en train de travailler avec son costume, etc. Donc, les miséricordes sont tout à fait passionnantes. Et donc là, on a un musicien. Donc, ces sièges avec ces sellettes, ces miséricordes, sont séparés de les uns des autres par ce qu'on appelle des parcloses. Donc, vous voyez, c'est là où se trouvent les flèches. Et aux extrémités des stalles se trouvent des parties un petit peu plus décorées, un peu plus épaisses, qu'on appelle les jouets. Donc là, on voit un peu sur cette photo ce que sont les jouets. Alors, en principe, les stalles sont surmontées par un haut dossier ou par un baldaquin. Et alors, ce qui est remarquable, si vous vous souvenez des photos que je viens de passer, c'est qu'il n'y en a pas à Rouen, alors que, justement, dans les textes, on a l'impression qu'il y en a. C'est-à-dire qu'on voit bien à plusieurs reprises qu'il est question de retombées, de parties hautes, et donc elles ont disparu. Alors, on sait que les stalles ont subit beaucoup de dommages, en particulier au XVIIIe siècle, à l'époque où l'archevêque s'appelait Sautavanne. On a supprimé un nombre important de stalles et on a en plus sans doute supprimé les parties hautes. Et donc ce qui fait que ce qu'on voit aujourd'hui ne correspond pas tout à fait à ce qui a été fait. Donc les stalles sont des éléments fondamentaux pour les chanoines, puisque chaque chanoine a sa stalle, et que c'est dans sa stalle que se déroule la cérémonie d'investiture. C'est là que le chanoine prête serment d'obéissance et de fidélité à la cathédrale à laquelle il va appartenir. Et c'est seulement après cette cérémonie qu'il touche sa prébende, c'est-à-dire qu'il reçoit la terre qui lui permet de vivre. Et donc, il y avait à ce moment-là 51 prébendes à Rouen, et une particulièrement remarquable, qui est celle de l'archevêque. L'archevêque de Rouen, ce qui n'est pas le cas partout, participe, quand il est là et quand il le veut éventuellement, aux cérémonies religieuses dans le chœur avec sa propre stalle. Donc, tout cela lui permet de participer à la prière commune et continue dans le chœur. Donc ce chantier des stalles, qui est du début de la deuxième moitié du XVe siècle, est un chantier tout à fait exceptionnel, parce qu'il se déroule au lendemain de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire au lendemain d'une période qui a vu la ville de Rouen connaître un destin assez variable, c'est-à-dire que à partir du moment où les comptabilités disparaissent, 1435, on constate par d'autres sources que la ville est une espèce de réceptacle pour tous les gens qui fuient, soit devant les ennemis dus à la guerre, parce qu'ils sont favorables aux Anglais. Rouen, à ce moment-là, devient une espèce de petite capitale anglaise. Et donc, après cette période qui a vu la ville connaître une augmentation de sa population, la population diminue, les gens repartent chez eux, et puis les Anglais aussi, et ce qui fait qu'il y a énormément de manque. Il y a une pénurie de main-d'œuvre spécialisée qui est tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'il manque des maçons, il manque des charpentiers, et il manque évidemment des ouvriers, comme on va le voir, pour faire ces stalles. Donc, le chantier est lancé parce que les chanoines décident de remplacer leurs vieilles stalles par des nouvelles, mais il est lancé difficilement parce que d'abord il faut trouver un responsable, quelqu'un qui va mener le chantier. C'est quelqu'un qu'on appelle dans les comptabilités le maître de l'œuvre des chaires, le mot chaire signifiant stalle, puisque ça vient du latin cathédrale. Donc, les stalles étaient en mauvais état. En 1430-31, là, on avait encore un peu de comptabilité. On a vu qu'il y a eu deux stalles, une du côté gauche et une du côté droit, qui ont été réparées. Et la même chose l'année suivante, d'où la décision de changer ces stalles. Ça se précise lors de délibérations capitulaires qui ont lieu en 1449. Et là, on voit que les chanoines décident d'écrire à un ouvrier fort habile, résidant en Basse-Normandie, qui désirait être chargé du chantier des stalles. Donc là, on va aller chercher en Basse-Normandie quelqu'un apparemment dont on ne nous dit rien pour l'instant, mais on va faire un bon marché avec lui, et effectivement, un contrat est signé le 17 mars 1451, donc vous remarquez déjà qu'entre la délibération capitulaire et le moment où le contrat est véritablement signé, si on peut employer ce terme, il se passe presque 2 ans. Donc c'est déjà assez lent, mais on peut supposer que justement cet ouvrier fort habile, il est occupé ailleurs et qu'il faut qu'il finisse les chantiers qu'il est en train de mener sans doute en Basse-Normandie. Et donc il est qualifié dans la comptabilité d'ouvrier en chaire, et il est arrivé quelques jours auparavant à Rouen, on lui a payé le déplacement et on lui verse 4 écus d'or et un gallon de vin. Ça fait partie des choses classiques quand on fait venir quelqu'un, on l'accueille avec du vin et de l'argent, et les écus d'or, à ce moment-là, ça fait 22 sous 6 deniers, donc 4 écus d'or, ça fait 5 livres tournois. Et donc, ce sont les maîtres de l'œuvre de la fabrique, c'est-à-dire ceux qui sont responsables du lancement des travaux. Il y a un receveur qui tient les comptabilités, mais il y a des gens qui sont responsables des travaux, qui donnent les ordres de travaux, qui autorisent ou qui n'autorisent pas les travaux, qui vérifient les comptabilités. Donc, c'est Guillaume du Désert et Laurent Sureau qui viennent pour préciser les conditions du marché, et il est prévu que le personnage, dont on apprend qu'il s'appelle Maître Jacques, sera logé et on lui donnera 200 écus d'or. Alors 200 écus d'or, c'est une somme tout à fait considérable, hein, ça fait à peu près 250 livres, c'est-à-dire ça fait 5 ans de salaire d'un maçon normal. Mais c'est une somme fixe, c'est-à-dire qu'on lui donnera 200 écus d'or et il faudra qu'il fasse tout le chantier. Donc c'est un travail à tâche. C'est tout à fait exceptionnel à cette époque et on ne sait pas pourquoi ce maître Jacques a préféré ça à un salaire quotidien, par exemple. On lui fournira, dit toujours le contrat, les matières nécessaires, c'est-à-dire, puisque les stalles sont en bois, du bois et de la colle qui permettra de mettre en place les différents éléments des stalles, colle qui est faite avec des arêtes de poisson qu'on fait bouillir, qui ensuite est réutilisé. Alors, il aura le droit, toujours dans ce contrat, de récupérer les vieilles stalles, et il demande une avance de 20 écus. Bon. Malheureusement, ce Jacques, dont on apprend enfin qu'il s'appelait Barbelot, ce Jacques meurt à la fin de 1451. Donc, ça partait bien, mais ça tombe à l'eau. Et c'est son valet, Guillaume Basset, dont nous aurons l'occasion de reparler, qui envoie une lettre pour dire que... Le contrat tombe à l'eau définitivement. Alors, les chanoines lui envoient une lettre pour l'interroger sur un certain Jacques Morel, qui serait lui aussi ouvrier en chaire. Bon, apparemment, il n'y a pas de réponse et l'affaire en reste là. Alors, en mai 1453, donc oui, il s'est encore passé 2 ans, hein, ça traîne. Depuis 1949, aux décisions de refaire les stalles, il ne s'est toujours rien passé. Donc, mai 1453, le doyen du chapitre prend contact avec des ouvriers venus à Rouen. Alors, les ouvriers, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas d'où ils viennent, mais apparemment, ce sont des spécialistes de stalles. Et en 1453, c'est le receveur de la fabrique, c'est-à-dire celui qui paye les salaires et les matériaux, qui prend contact avec des ouvriers lui aussi. Donc à chaque fois, c'est mentionné dans le registre de comptabilité. Mais on peut supposer que ce sont les mêmes, mais là encore, on ne sait rien d'eux. Plusieurs fois, les chanoines, des chanoines divers, visitent les stalles et à chaque fois, ils reviennent en disant « Oui, non, ça ne peut plus durer, il faut absolument les changer, c'est vraiment insupportable et donc il faut refaire les stalles. » Le 3 septembre 1453, donc là, ça fait maintenant 4 bonnes années que le chantier a été prévu, on prend contact avec un personnage qui, dans les délibérations capitulaires, est appelé Artifex Cathedrarum et qui s'appelle Laurent. Bon. On lui donne 12 écus d'or pour le faire venir, donc c'est quand même une assez belle somme, et un contrat est établi en décembre. Et alors lui choisit autre chose, il sera payé 5 sous par jour, c'est-à-dire que plus le chantier dure, plus il gagne. Tandis que le précédent, Jacques Barbelot, lui, il avait ses 200 écus, point final. Tandis que là, avec 5 sous par jour, bon, ça peut éventuellement être intéressant. Alors, il y a des discussions qui sont mentionnées dans les libérations capitulaires sur la façon et les formes des futurs stalles, mais le chantier ne commence pas. Apparemment, le dénommé Laurent est lui aussi pris ailleurs. Et donc, une nouvelle députation de chanoines se déplace dans la cathédrale en mars 1454, pour voir où on placera les stalles dans l'église. Et c'est peu de temps après que l'archevêque Guillaume d'Estouteville, un archevêque tout à fait important pour la cathédrale et pour Rouen en général, annonce que pour sa chaire, il donnera 500 livres, ce qui est quand même une assez belle somme apparemment. Et donc les maîtres de l'œuvre, Laurent Sureau et Guillaume du Désert, acceptent de faire une chaire spéciale pour l'archevêque. Et le 27 septembre, donc, quelques chanoines font un voyage avec des ouvriers à Saussure. Donc Saussure, c'est aux alentours de Creil, et à Saint-Avroux, Saint-Évroux, c'est pas très loin de Dreux, donc un voyage assez important. Pourquoi faire un voyage avec des ouvriers en chair? Eh bien, pour leur montrer des stalles et leur dire comment en faire de semblables. Ça, c'est un élément qui est tout à fait important parce qu'on nous explique très souvent qu'il y avait des architectes, des gens qui faisaient des beaux dessins, c'est Villard de Honnecourt, etc. Alors, je ne dis pas que ça n'est pas vrai, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dessin, mais ce qu'on peut constater, c'est que très souvent, c'est à partir d'un modèle qu'on demande à des ouvriers de faire un travail. La porte Martinville, par exemple, a été faite à partir d'une porte qui était à Montivilliers. Et le responsable de la maçonnerie, Jean de Bayeux, a été envoyé à Montivilliers pour voir comment elle était et faire la même chose. Donc ça, c'est un élément qui me semble important parce qu'on imagine trop souvent un architecte qui est là dans sa chambre au trait, dans la loge des maçons, puis qui fait des dessins. On en a du début du XVIe. Par exemple, quand on a refait la tour, le clocher de la cathédrale, on en a un très très beau par des charpentiers, mais il n'y a pas une seule mesure, il n'y a rien. C'est un dessin que les ouvriers interprétent eux-mêmes. Donc, on a là quelque chose d'assez intéressant peut-être sur la manière dont fonctionnaient les chantiers et comment se faisait la création. Et puis, donc, on apprend, toujours dans les délibérations capitulaires, que le contrat avec Laurent est abandonné. Alors, le 31 décembre, nouvelle réunion, et on décide de payer 14 blancs par jour à l'ouvrier qui se chargerait du chantier. Donc, 14 blancs, les blancs, alors il y a toutes sortes de blancs, ce sont des pièces, hein, les blancs, c'est de la monnaie noire, théoriquement, mais on appelle ça des blancs, et donc ces blancs, à ce moment-là, font 5 deniers. Donc, 14 blancs par jour, ça fait 5 sous, 10 deniers. Donc, ça fait plus que ce qu'on aurait donné à Laurent, parce qu'il était prévu de lui donner 5 sous par jour. Donc, on voit que pour essayer de trouver enfin quelqu'un qui va être responsable de ce chantier, on est amené à augmenter les salaires, et on prévoit aussi qu'on logera le responsable du chantier et les ouvriers. C'est-à-dire qu'on se rend compte que on ne trouvera pas à Rouen les ouvriers nécessaires, qu'il va falloir qu'ils viennent d'ailleurs, et par conséquent, ils ne seront plus chez eux, et il faut qu'on trouve le moyen de les loger. Alors, le 25 août 1455, les chanoines décident de mettre fin définitivement aux travaux de maçonnerie, c'est-à-dire à la nef et aux verrières. Ils finissent par faire les couvertures, de manière à pouvoir, disent-ils, enfin lancer le chantier des chaires. Donc on est en 55, ça fait 6 ans qu'ils attendent. Et en avril 56, alors là, les choses semblent se préciser, les discussions ont lieu des responsables du chapitre avec un personnage, Philippe, qui est qualifié dans la comptabilité de principal ouvrier des chaires. Et on lui demande de faire une stalle pour voir comment seront faites toutes les stalles et comment ça va pouvoir être accepté ou non. Et enfin, en 1457, on apprend que le responsable sera Filippo Viard. Alors, Filippo Viard est un personnage assez important, mais qui important pour le chantier des stalles, mais qui n'apparaît finalement qu'assez peu dans les autres sources. On ne l'a pas vu avant, enfin, autant qu'on peut le savoir avec les lacunes qu'il y a dans la comptabilité, mais on ne le voit dans aucune comptabilité, ni à la cathédrale, ni dans les églises de Rouen. Et donc il devient maître de l'œuvre des chaires, et il a fallu donc 8 années de recherche pour qu'enfin on puisse espérer lancer le chantier. Alors, ce Filippo Viard est mal connu. Achille Desvilles, qui avait fait un commentaire à la publication d'une partie des comptes du chantier des stalles au XIXe siècle, pensait qu'il était rouennais, mais rien ne nous permet de le dire, et jusqu'à cette date de 1457, je ne l'ai pas vu dans les registres du tabellionnage. Par contre, il semble qu'il soit originaire de Marbeuf, c'est-à-dire pas très loin du Neubourg, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je pense qu'il est de cette région. Alors, on a trouvé enfin le responsable, celui qui va lancer le chantier, qui va l'organiser. Encore faut-il avoir des ouvriers. Et les ouvriers, c'est ce qu'on appelle des huchiers. Donc, Filippo Viard est un huchier. Alors, j'ai constaté, j'ai lis récemment un article sur les maîtres des œuvres, justement, et j'avais écrit que celui qui s'occupe de la charpenterie s'occupait aussi des huchiers, et la personne qui a relu l'article, vous savez, quand on propose un article, il y a des gens qui font des remarques, elle m'a dit qu'elle ne savait pas ce que c'était qu'un huchier. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que je parlais comme si c'était des choses évidentes, mais ça n'est pas évident du tout. Donc, les huchiers, en fait, ce sont des sortes de menuisiers ébénistes dont les statuts, qui ont été publiés par le chanoine Rouen Lacroix, disent qu'ils sont pour activité de faire des coffres, des huches, d'où le terme huchier, des bancs, des tables, des omers, c'est-à-dire des armoires, des huis encassillés, c'est-à-dire des portes avec des croisillons de bois, des fûts à cardes ou autres besognes qui s'assemblent à colle. Voilà le travail de huchier. Parfois, ils ont des activités plus artistiques, c'est-à-dire qu'ils sont aussi sculpteurs, et effectivement, pour ce qui concerne les miséricordes, les scellettes que je vous ai montrées tout à l'heure, souvent, ils en font en même temps qu'ils peuvent éventuellement faire simplement les dossiers ou les accoudoirs des stalles. Alors, les huchiers, il y en avait un nombre non négligeable en Normandie, et particulièrement à Rouen, avant la guerre de Cent Ans. Pendant la guerre de Cent Ans, il semble qu'il y en ait eu aussi, mais ils sont devenus rares au lendemain de la guerre de Cent Ans. On voit bien, avec la durée qu'il a fallu pour trouver enfin celui qui serait responsable du chantier, et donc on décide qu'on va aller les chercher ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, et dès février 1451, on avait prévu de les installer dans l'hôtel du Haut-Doyen, et l'archevêque, enfin le chapitre payait 18 livres par an pour cet hôtel du Haut-Doyen, donc qui était pas très loin d'ici, puisqu'il est pas très loin non plus de la cathédrale où théoriquement les huchiers devaient travailler, et donc entre le cimetière Saint-Maclou, la rue de Malpalu et la rue Notre-Dame, donc c'est tout près. Et donc c'est un bâtiment qui appartenait à une veuve, Jeanne d'Auvoux, qui avait vécu avec le maréchal hérédital de Normandie. Et donc, les chanoines notent dans leur délibération capitulaire, s'il est ainsi que des ouvriers des chaires de l'église viennent besogner en Icelle, ils auront les chambres tant haut que bas de deux vers le puits pour coucher. Et donc, ils ont commencé en 51 à louer cet hôtel du Haut-Doyen, les chanoines. Et pendant 6 ans, eh bien, le logement est vide, l'hôtel du Haut-Doyen ne reçoit personne, la Jeanne d'Auvoux reste là, et il ne se passe rien. C'est seulement un peu avant juin 1457, quand les premiers huchiers arrivent, qu'elle quitte l'hôtel, remplacée par un avocat. Donc, logement gratuit pour les ouvriers, qui quittent leur famille et leur lieu de résidence, des ouvriers qui sont dans une situation quand même un peu difficile, puisqu'ils viennent, on va le voir, de régions extérieures à la Normandie, et ils ne parlent pas la langue de Philippe Auviard. Donc les relations, les contacts, les explications ont dû être sans doute difficiles. Mais justement, ces huchiers, on n'en voit pas à Rouen. Donc, il faut lancer des campagnes de recrutement. Alors, ça, c'est assez courant. Il y a par oui dire, les nouvelles sont sues, sont connues. Mais alors, il y a parfois quelques ouvriers qui décident de venir d'eux-mêmes. Mais en février 1461, comme on ne trouvait pas suffisamment de huchiers, Philippe Auviard s'est rendu à Saint-Denis à l'occasion de la cérémonie religieuse du pardon. Il a visité des ateliers de hucherie, mais apparemment sans succès immédiat. Et quelques années plus tard, à un moment où les chanoines commencent à trouver que c'est long, hein, puisqu'on est en novembre 1465, et je vous rappelle que le chantier commence théoriquement en 1457, ça fait 8 ans, Guillaume Basset, donc vous souvenez, le valet de Jacques Barbelot dont je parlais tout à l'heure, qui est venu sur le chantier des stalles à Rouen, Guillaume Basset fait une tournée qui dure 20 jours, pour trouver et avoir des ouvriers en hucherie pour abréger, c'est-à-dire pour finir plus rapidement que possible, si ça peut se faire, l'œuvre des chaires. Et donc, il se rend à Abbeville, à Montreuil-sur-Mer, à l'abbaye de Sercamp, donc c'est pas très loin de Beauvais, c'est Saint-Paul, à Hédin, en Artois, à Bruxelles, à Nivelles, en Brabant, à Lille, à Tournai, à Arras, à Amiens, et autres lieux. Donc, là, à la fin, le scribe n'en pouvait plus, s'est contenté de mettre « et autres lieux », parce qu'il y en avait beaucoup. Alors, a-t-il trouvé des gens pour venir travailler? On ne le sait pas, mais on ne voit pas de huchiers nouveaux venus, puisque justement dans la comptabilité, c'est ce qui est écrit chaque fois qu'il y a un nouvel huchier qui arrive, il est indiqué que c'est un huchier nouveau venu. Alors les travaux ont donc duré 14 ans, ce qui quand même est assez long pour un chantier de ce genre. Et d'abord, le chantier est sous les ordres de Philippe Auviard. Il a comme assistant Guillaume Basset, donc le personnage dont je vous parlais tout à l'heure, Guillaume Basset, qui est chargé de recevoir les matériaux, qui organise le travail dans l'atelier et qui a sous sa responsabilité au début 6 huchiers. Donc, ces huchiers ne travaillent pas évidemment dans la cathédrale. Ils travaillent dans l'hôtel du Haut-Doyen, dans une grande salle qui se trouve au-dessus du cellier. Et ils peuvent utiliser une salle où Guillaume d'Estouteville, donc l'archevêque de Rouen, lorsqu'il était venu pour la première fois à Rouen, avant de devenir officiellement archevêque, avait fait sa chapelle. Et ils peuvent également utiliser les greniers qui sont au-dessus de la grande cuisine pour y entreposer les stalles au fur et à mesure qu'elles vont avancer. Donc, de 1457, début du chantier, jusqu'à 1467, fin du chantier mené par Philippe Auviard, on a une liste de 37 huchiers. Mais les effectifs sont toujours entre 6 et 10. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Oui, moi, je ne vois pas sur l'ordinateur. Donc, vous le voyez, certains huchiers, comme Étienne Camus, qui sont là tout le temps de 1457 à 1467. Ou bien encore Pierre Gamache. Pierre Gamache, lui aussi, est là tout le temps. Mais vous avez Jean Lefebvre, qui est là, lui aussi, un certain temps, Étienne Lescachier, Mathieu Mars, etc. Mais comme vous pouvez le remarquer, s'il y a quelques ouvriers qui sont là de manière pérennes, si on peut dire, qui sont là du début ou presque du début à la fin du chantier, vous en avez quand même trois qui ne sont restés que 10 jours au maximum, trois qui ne sont restés que 50 jours, et bon, il y en a une douzaine qui est entre 100 et 250, mais au total, donc, il y a seulement 8 des huchiers sur les 37 qu'on vient de voir qui sont restés pendant, disons, les deux tiers du chantier. C'est-à-dire qu'ils sont restés suffisamment longtemps pour véritablement travailler sérieusement à ces stades. Donc ça veut dire qu'on a une espèce de, on ne peut pas employer vraiment le mot turnover, mais enfin il y a quand même un roulement important, il y a des huchiers qui ne viennent que très peu de temps et puis qui repartent. Alors, Achille Desvilles, dans ce livre dont je vous parlais tout à l'heure, pensait qu'il s'agissait d'une espèce de tour de France, mais en fait, ces huchiers sont déjà des Flamands majoritairement. Et deuxièmement, on sait par un certain nombre d'articles dans la comptabilité qu'en fait, ils retournent chez eux. Ils repartent très souvent aux alentours de Noël et on essaye de les faire revenir. Après le jour de l'an, on leur fait des offres, etc. Mais ils refusent. Donc, on voit qu'il y a quelques ouvriers qui se sont installés, Pierre Gamache notamment, Étienne Camus, qui sont restés véritablement à Rouen, mais qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, dans aucun autre chantier. Et puis, il y en a qui ne sont venus que par ouï-dire, ils ont appris qu'il y avait un chantier, qu'il y avait du travail, ils sont restés un certain temps, assez court en général, 1 an, 2 ans maximum, et ils sont donc repartis. Et ce qui est remarquable, c'est que ceux qui sont venus, sauf un, ne reviennent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouvriers qui seraient repartis pour rentrer dans leur famille avec l'intention de revenir après. Non, ça n'arrive que pour un seul qui s'appelle Desmarais, qui est là. Vous voyez, il est en 1457 jusqu'en 60, il est présent. Et puis il réapparaît en 65-66. Mais ce n'est pas certain que ce soit le même, parce que Desmarais, ça peut être un nom assez courant. Donc au total, bien qu'il n'y ait que 51 prébendes, il est prévu de faire 88 chaires. Donc il faudra préparer les pièces de bois et l'assemblage aura lieu ultérieurement. Et donc tout cela se fait à l'hôtel du Haut-Doyen où les chanoines ne viennent que très rarement. Ce n'est pas très intéressant pour eux d'aller voir des ouvriers en train de tailler du bois, de scier, d'utiliser des gouges, etc. Donc c'est en février 1458, donc quelques mois après le début du chantier, que Philippe Auviard présente la stalle qu'il a levée, c'est-à-dire le modèle des stalles qu'il va faire construire, et il va la présenter pour ouvrer les autres de cette façon. Et le prototype est accepté par les chanoines. Et donc, Guillaume Basset est donc envoyé dans la forêt de Lyon, dans plusieurs endroits, pendant le mois de mai 1458, pour acheter du petit mérin, c'est-à-dire du bois, des planches, des petites poutres, des choses comme ça. Donc, notez-le dès maintenant, ce qu'il achète, c'est du bois vert, c'est-à-dire du bois qui peut bouger, surtout quand le temps passe. Hein. Donc, il ne faut pas imaginer que... on utilise du bois qu'on aurait laissé sécher pendant 2-3 ans. Non, on achète le bois en fonction des besoins. Et puis, alors parfois, évidemment, quand on refait une charpente, on récupère des bois qui peuvent avoir 100 ans, 200 ans. Mais le plus souvent, on utilise du bois vert. Et donc, c'est 800 pièces qui lui sont livrées en plusieurs fois et qui, à chaque fois, sont reçues par Guillaume Basset. C'est lui qui enregistre et reconnaît les quantités. Alors les stalles sont donc préparées l'une après l'autre, selon le patron qui a été fourni par Philippe Aviard, mais le travail précis est très mal connu. Il n'y a pas de compte pour 58-59. En 59, on voit qu'on prépare des piliers qui vont séparer les stalles, mais qu'est-ce que c'est que ces piliers? Est-ce que c'est haut? Est-ce que c'est bas? On ne le sait pas. Et on voit apparaître des sculpteurs qui livrent des feuilles de bois pour servir et asseoir au long de l'encorbellement du haut des dites chaires. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, normalement, ici, il y a un encorbellement, et c'est qu'il y a des parties hautes, et visiblement, elles ont disparu aujourd'hui. On voit aussi des livraisons de colle, donc je le disais tout à l'heure, à partir d'arêtes de poisson, des pots de terre pour mettre la colle. On voit des pièces de bois qui arrivent, et quand elles sont trop longues, elles sont préparées par des scieurs de long. Mais, alors, tout ce bois est dans l'hôtel du Haut-Doyen, il est dans la court, il est soumis aux intempéries et en janvier 1460, on fait venir des manœuvres pour déplacer des grandes pièces de bois pour doute d'empirement. C'est-à-dire que le bois, en fait, est en train de pourrir, de s'humidifier parce qu'on a laissé tout ça comme ça. Alors, évidemment, les travaux n'avancent pas très vite et ils avancent d'autant moins vite que les chanoines, de temps en temps, utilisent les huchiers pour leur demander de faire autre chose. Par exemple, en mars 1460, on demande aux huchiers de se rendre dans l'église pour refaire une armoire qui sert aux compteurs, c'est-à-dire là où se trouvent les comptabilités. Donc, 1461, c'est le moment où Philippe Auviard est allé à Saint-Denis, je le disais tout à l'heure, et peut-être a-t-il réussi à faire venir Henri Perrier et Ernoulet de Secot, mais ils sont restés très peu de temps. Donc le chantier avance toujours assez doucement. En janvier 1462, on achète des brancards, on appelle ça parfois des civières, c'est-à-dire des sortes de brouettes, mais à bras, pour transporter les morceaux de bois pour ouvrer à l'assemblement des chaires, donc des stalles. Et puis on fait venir aussi des planches pour faire une cloison. Et là, c'est très étonnant, parce que dans cet hôtel du Haut-Doyen, on commence à construire une galerie couverte avec portes, serrures. On fait venir le maître des œuvres de charpenterie de la cathédrale, Guillaume Le Prévôt, et on dit que c'est dans cette construction, sur laquelle on prévoit de mettre des tuiles, qu'auront lieu les essais d'assemblage, de manière à ce que les stalles soient à l'abri des intempéries et des maraudeurs. Donc ça veut dire que parfois il devait y avoir peut-être des vols dans l'hôtel du Haut-Doyen. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est qu'on va, au fond, en les mettant dans cette galerie, surveiller les ouvriers. Parce qu'on est quand même en 62, ça fait 5 ans qu'on paye des salaires à des ouvriers qui, apparemment, évidemment, travaillent, qui font des pièces, qui donnent des morceaux qui ressemblent à des stalles, mais pour l'instant, il ne se passe rien. On fait venir aussi, ou du moins on utilise aussi des sculpteurs qui sont extérieurs au chantier et qui sont tous flamands, c'est le cas de Laurent Ispre, et qui fait des épis en feuilles de chou et de chardon. Paul Moselman, c'est un homme que j'aime bien parce qu'il apparaît un peu partout, et puis donc lui aussi est flamand, mais il habite à Rouen, il est marié, il a une femme, des filles qui lui coûtent cher, dit-il, et donc il fait lui 24 apôtres, 24 anges, des images à mettre en sellette, donc c'est des miséricordes. Un autre flamand, Lienard Gien, fait lui aussi des sculptures, mais il demande à être payé à la journée, c'est-à-dire il préfère recevoir un salaire plutôt que d'être payé à la pièce, comme l'était Laurent Ispre ou Moselman. Et c'est ce que fait également Laurent Ispre. Au bout de quelques livraisons, il demande à être payé lui aussi à la journée. Un autre personnage très important dans la sculpture sur bois à Rouen à ce moment-là, c'est Pierre Trubert. Alors lui, il livre Sainte-Catherine, une Annonciation, un Saint-Barnabé, un Saint-Martial, un Saint-Thomas, une Sainte-Agnès, Sainte-Madeleine, Sainte-Geneviève, une Trinité, les docteurs de l'Église, les vertus cardinales, les vertus théologales, et un Saint-Georges de grande taille, là il est payé deux fois plus cher. Et puis c'est ce que font également Moselman et Trubert en 62-63, eux aussi demandent à être payés à la journée plutôt qu'à la pièce. Bon, ils livrent d'autres saints, l'ancienne loi, la nouvelle loi, des angelots pour servir aux soupentes, etc. Et jusqu'en 1463, donc, tout ce travail semble convenir aux chanoines. Ils sont assez satisfaits. Philippe Auviat, par exemple, est payé uniquement en jours entiers. Or, vous savez qu'il y a de très nombreux jours fériés, et la veille d'un jour férié, on arrête de travailler généralement vers 2h, 3h de l'après-midi, et on reçoit 60% d'un salaire normal. Or, lui, Philippe Auviat, est payé uniquement en jours complets. C'est-à-dire que même quand il travaille, quand il peut y avoir 2 ou 3 jours fériés dans une semaine parfois, et à chaque fois, il est payé en jours entiers. Et on applique également au huchier le règlement des maçons. Alors, le règlement des maçons, c'est un document tout à fait passionnant qu'on a retrouvé dans un obituaire et qui, apparemment, a été refait en 1455. Et ce règlement des maçons organise la durée du travail des ouvriers sur le chantier. Donc, je l'avais étudié en détail autrefois. Malheureusement, c'est paru sur ce CD. Ce qui fait que c'est très mal connu, donc personne ne l'a jamais lu, en dehors de ceux qui m'ont entendu le jour de la communication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de fêtes qui donnent lieu à des versements d'argent aux maçons. Et on va décider de le faire aussi pour les huchiers. Par exemple, les maçons ont leur fête à l'Ascension, et ils reçoivent ce qu'on appelle le mouton de l'Ascension. Alors généralement, c'est une somme d'argent, c'est 15 sous. Et ben, on fait la même chose pour les huchiers. De la même façon, à la Saint-Martin, donc le 11 novembre, on passe souvent au salaire d'hiver, puisque les journées sont plus courtes, et il est de tradition de donner une gratification de 5 sous aux maçons. Et on fait la même chose pour les huchiers. Et en 1459, il est décidé justement qu'on ne fera plus de baisse de salaire au 11 novembre, il n'y aura plus de salaire d'hiver, mais on continuera de toute façon à verser le vin de la Saint-Martin. Donc vous voyez des avantages tout à fait intéressants pour des ouvriers qui touchent des salaires qui sont des salaires, vous voyez, les plus nombreux entre 5 sous et 4 sous 6 deniers, ce sont des salaires tout à fait convenables pour des ouvriers à Rouen à ce moment-là. Les maçons, les charpentiers, la plupart des ouvriers touchent ces sommes-là. On voit que, par exemple, Guillaume Basset, le valet de Jacques Barbelot, est embauché à 4 sous 6 deniers, puis il passe à 5 sous et il reste à 5 sous. Pierre Gamache, lui, est à 4 sous 6 deniers sans aucun changement. Les Lescachier, Marche, Jean Laurent sont engagés à 3 sous 9 deniers, mais passent à 4 sous 2 deniers. Jean Lefebvre, lui, c'est encore plus intéressant, passe de 3 sous à 3 sous 9 deniers, puis à 4 sous 2 deniers, quelques semaines à 4 sous 6 deniers, et il revient à 4 sous 2 deniers. Par contre, les apprentis d'ouvriers qui viennent avec leur patron sont payés seulement 20 deniers, ce qui n'est pas beaucoup, généralement c'est quand même 2 sous ou 6 deniers. Et on voit ici que dans les salaires à 5 sous, il y a une montée en 1465 et 67, et c'est lié au fait qu'il y a de nombreux artistes qui sont venus, des sculpteurs qui sont entrés dans le chantier. Mais en 1463, les chanoines commencent à trouver que ça va bien. Surtout qu'ils ont vu que les ouvriers, alors, cela coule douce, parce que dans l'hôtel du Haut-Doyen, il y a un jeu de paume. Et donc, à chaque fois qu'ils arrivent, les ouvriers sont en train de jouer au jeu de paume. Alors, évidemment, on comprend qu'ils aient construit cette espèce d'abri pour les obliger à travailler. Il faut qu'ils soient enfermés, parce qu'il y a des portes. Donc, ils ne sont pas contents. Et puis, on voit que les assemblages de pièces de bois sont difficiles. Apparemment, ce n'est pas terrible ce qui a été fait. Ça ne s'emboîte pas bien. Bon, alors, ça a peut-être travaillé, mais bon. Et donc, en février 1463, Philippe Auviard est ajourné. Alors qu'est-ce que ça veut dire ajourné? Ça veut dire qu'il est soumis à la justice du roi. On fait venir le vicomte, on fait venir le bailli, le bailli royal, et il passe en une sorte de jugement, et on lui dit qu'il faut qu'avant la fin de l'année, il ait fait 3 stalles, qu'on les ait vues construites, installées, etc. Et donc les chanoines passent au lendemain de cet ajournement dans l'atelier, ils regardent ce qui a été fait, et pour encourager les huchis à travailler, on leur donne de l'argent pour boire, donc c'est pour boire du vin évidemment, on leur paye malgré tout le mouton de l'ascension, et même on leur achète une petite meule pour aiguiser les outils, et on leur demande de préparer les poupées, c'est-à-dire les petites statuettes qui vont être sur les accoudoirs. Et pendant ce temps-là, il faut rafistoler les anciennes stalles avec toutes sortes de bois, on va chercher du mérin à fenêtre, c'est-à-dire du bois de fenêtre, on imagine bien que c'est vraiment pour tenir le temps que ce soit fait, mais on pense que ça va être fait, on continue à payer le vin de la Saint-Martin en espérance que les ouvriers feront mieux leur devoir en la dite œuvre des chairs, et c'est donc en 65, dans ce moment-là, que Guillaume Basset fait une tournée pour essayer de trouver des ouvriers, et donc c'est le moment où on donne de très nombreux travaux à tâches aux sculpteurs. En avril 1466, les chanoines font une nouvelle visite des travaux, ils sont dans l'hôtel du Haut-Doyen, et là ils ne sont pas venus tout seuls, ils sont venus avec un certain Nicolas le Chevalier, huché d'Andely, pour que lui leur dise ce qu'ils pensent de ce chantier, parce que quand même ça traîne, les morceaux s'assemblent mal, etc. Donc qu'est-ce qu'ils en pensent? Malheureusement, nous ne le savons pas, puisque les délibérations capitulaires notent qu'ils ont fait venir ce personnage, mais ils ne disent pas ce qu'il a dit. Et donc, peu de temps après, il y a une visite générale du chantier. Là, on fait venir Philippe Auviard, bien sûr, qui est là, qui doit montrer ce qu'il a fait. Un personnage dont on va reparler dans un instant, Laurent Adam. Richard de Laplace, un huchier de Rouen, alors c'est le seul qu'on connaisse bien, mais bon, il n'est pas très sculpteur, il fait surtout des armoires et des portes. On fait venir le maître des œuvres de maçonnerie de la cathédrale, Guillaume Pontis, on fait venir le maître des œuvres du roi dans le bailliage, évidemment, de Rouen, Michel Signard, et à la fin, on leur fait une petite fête et on leur donne 15 sous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? On ne le sait pas, mais visiblement, ils n'ont pas été très contents de l'état du travail. Donc, conclusion inconnue. Mais alors, on commence à acheter des bois nouveaux. Donc, ça prouve bien qu'on se rend compte que ça ne va pas. Ce chantier ne fonctionne pas. Et on achète ce qu'on appelle des bordilandes. Alors, les bordilandes, ce sont des bois qu'on a fait tremper dans l'eau, de telle sorte qu'ils se sont vidés de leur sève et qu'ils sont devenus très durs. Donc, les bordilandes, qu'on appelle parfois les bords de Flandre ou les bords de Hollande, mais c'est surtout bordilandes qu'on voit dans les textes, ça va permettre normalement de faire des travaux de bois, mais qui ne bougeront pas, qui ne se modifieront pas normalement. Si on travaille avec des bordilandes, si on a bien taillé, si les mesures sont bonnes, on doit réussir à emboîter les morceaux de bois. Et on continue à faire venir des sculptures de Paul Moselman, donc notamment un crucifix de bois qu'on utilise dès ce moment-là pour le Vendredi Saint. Alors, en 66, là, on pense que ça y est, hein, c'est bon. On fait venir des manœuvres qui transportent des pièces de bois d'une place en l'autre. Alors, bon, les chanoines sont très contents. Le bois est sorti de l'atelier, c'est-à-dire de l'hôtel du Haut-Doyen. Et donc, les chanoines, tout de suite, décide de remercier les ouvriers en leur faisant des cadeaux. Donc, ils leur font une collation de 3 heures après dîner. Alors, dans le règlement des maçons, il est expliqué que pendant l'été, on fait une pause qui est appelée vin de nonne, qui dure 1 heure, dans laquelle on peut évidemment boire du vin, mais on peut faire autre chose. Hein, mais donc, cette collation de 3 heures après dîner, c'est midi, à ce moment-là, c'est le repas de midi. Hein, et donc, on leur offre du pain, du vin et des cerises. Donc là, cerise sur le gâteau, si je peux dire. Et donc, en août, même chose, on leur donne à nouveau, parce qu'on est content de voir que le bois se déplace, qu'apparemment on essaye de mettre les morceaux de bois ensemble, on leur donne des pains mollets, des chopines de bière et des poires. Hein, donc là, vraiment, les chanoines sont très contents, parce que, effectivement, c'est noté dans les comptabilités, les huchis ont commencé à lever la plateforme, donc ils ont commencé à mettre la base sur laquelle vont être mises les stalles. Donc on fait une cloison devant l'autel de la chapelle Notre-Dame pour que le travail puisse se faire et que les cérémonies religieuses puissent continuer pendant la mise en place des stalles, qui est prévue pour septembre. On fait des cadeaux à Pierre c'est le fils de Philippe Auviard, et on lui donne de l'argent pour s'acheter une robe à l'occasion de la bienvenue du dit fils quand il serait reçu en habit d'église. C'est intéressant parce que ça montre que cet homme gagne suffisamment bien sa vie pour qu'il puisse payer des études à son fils qui va devenir clerc, qui va devenir homme d'église. Donc on voit bien qu'il y a des relations entre les chanoines et Philippe Auvière qui apparemment sont assez étroites. Mais l'installation continue de traîner. Alors les chanoines ne sont pas contents, au mois de novembre, bon, ils rétablissent les salaires d'hiver et on baisse tous les salaires de 6 deniers, sauf pour Philippe Auvière et Étienne Camus qui a remplacé Guillaume Basset, parce que je vous le dire tout à l'aire, il est sur le chantier de la chaire de l'archevêque. Mais bon, 15 jours avant Pâques, normalement on abandonne les salaires d'hiver à Pâques, 15 jours avant Pâques, on rétablit les salaires d'été. À ce moment-là, on apprend dans la comptabilité que les chanoines ont eu une collation avec certains maîtres, Jean Chemin, qui est grand ouvrier en œuvre de chaire. Donc c'est un personnage qui est un spécialiste, lui aussi, des stalles, et qui va donner son avis. Mais là encore, pas de compte-rendu, mais visiblement, il a constaté que le travail n'était pas bien fait et qu'il fallait utiliser beaucoup plus de fermeté à l'encontre des huchiers. Et donc, en mars 1467, dans les délibérations capitulaires, il est indiqué « les stalles sont finies et doivent être mises en place ». C'est évidemment un vœu pieux, puisque Philippe Auvière veut bien montrer que c'est fini, d'accord ? Alors, il fait acheter des bûches pour faire des coins et des chevilles, c'est-à-dire pour essayer de rafistoler plus ou moins ce qui ne rentre pas. On achète de la colle, des pots de terre, on enlève les vieilles stalles, on amène le bois depuis l'atelier à nouveau, donc il y a d'autres stalles, on met en place la nouvelle plateforme. Alors les chanoines sont très contents, là ils donnent de la viande, des fruits aux ouvriers. On achète des fouets de la corde pour faire plomb, donc pour que ce soit bien vertical et bien perpendiculaire. On fait venir des plâtriers qui vont coller les stalles contre les parois et qui vont éventuellement équilibrer la plateforme. Mais on sent quand même qu'il y a un peu d'improvisation là-dedans, parce qu'on achète des morceaux de bois pour rééquilibrer, parce que c'est pas très bien. Alors à chaque fois, évidemment, dans la comptabilité, hein, c'est noté, c'est parce que ça penche à droite, c'est parce que ça penche à gauche. Donc on achète des membrures, c'est-à-dire des grands morceaux de bois à un marchand de Vernon, on achète du chêne séché, mais aussi du chêne vert, on achète de la ferraille pour essayer de tenir tout ça. Comme ça a l'air de se terminer, les chanoines décident d'autoriser Philippe Auvière à s'acheter deux aunes de drap pour faire robe. Donc il va s'acheter un beau costume de maître des œuvres qui a réussi. Juillet 67, on assemble les dossiers, les accoudoirs, les miséricordes. Les meules sont là pour affûter les outils, des nouvelles qu'on achète. Moselman livre des images, des lampettes. Mais en août, c'est-à-dire quelques semaines après, tous les huchiers retournent dans l'hôtel du Haut-Doyen. Entre-temps, on a vendu les anciennes stalles, ou du moins une partie, la partie droite, aux prieurs de Granville. Et à ce moment-là, une épidémie de peste ravage la ville, Moselman meurt, et sans doute un certain nombre des ouvriers qui étaient sur le chantier. Et donc, là, les choses ont atteint une sorte de point de non-retour. Le 3 septembre 1467, Philippe Auvière est convoqué par les chanoines. On lui dit, mais alors qu'est-ce que c'est? Vous avez mis les plateformes, les stalles sont bien, elles sont finies, elles devraient être installées, vous avez reçu toutes les statuettes dont vous aviez besoin. Et là, il reconnaît que plusieurs pièces de bois doivent être reprises. Donc il reconnaît que son travail n'est pas bien fait. Et donc il dit que les dossiers des stalles ne sont pas de semblables mesures. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des dossiers qui ne s'emboîtent pas parce qu'ils n'ont pas été mesurés correctement. Donc ça fait 9 ans. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas été coupés correctement? Ou bien est-ce que c'est parce que ça fait 9 ans et qu'on a utilisé du bois vert? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des ouvriers qui venaient de partout, qui ne tenaient pas longtemps, qui avaient des méthodes différentes? Tout cela peut expliquer que ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. Et donc les chanoines sont très mécontents. Donc en octobre, ils laissent, vous voyez, c'est toujours assez long hein, quand même à prendre des décisions. En octobre, dans les délibérations capitulaires, il est décidé que le lendemain, le 24, on donnera congé aux huchiers d'aller hors du dit atelier, excepté le dit Viard et aussi Jean Hermand. Je vais reparler de Jean Hermand dans un instant. Donc, pourquoi congé est donné aux huchiers d'aller hors du dit atelier? Eh bien, ça veut dire qu'on les chasse. On décide qu'ils pourront travailler aux poupées des chairs, aux statuettes, mais dans l'atelier l'atelier. Hein, et donc, ce Jean Hermand, lui, travaille à la chaire de Monseigneur de Rouen, c'est-à-dire de l'archevêque, j'y viendrai dans un instant. Donc les ouvriers peuvent travailler, mais c'est, désormais c'est à la pièce, à la tâche, dans, hors de l'hôtel du Haut-Doyen, mais ils ne peuvent plus y rester. Donc il y en a trois qui acceptent de travailler comme ça, faire des feuilles en façon de maçonnerie, escoupées, etc. Et le 24 novembre, Philippe Auviard est officiellement licencié, l'affaire est confiée à la justice, et le renvoi de Philippe Auviard est effectif le 21 janvier 1468. Donc en, le 21 janvier 1468, les chanoines se séparent de celui qui devait faire les stalles. Mais les stalles ne sont pas faites, elles ne sont pas terminées, elles ne sont même pas mises. Il y en a peut-être quelques-unes qui ont été mises. Il doit quitter l'atelier avec sa famille, il est avec sa femme et ses enfants, il doit partir et il doit emporter ses biens. Il doit rendre les traits et points subtils des principales pièces, c'est-à-dire en fait les modèles, et on prévoit la confiscation de ses biens. Et donc Achille Desvilles disait, ben, il a été chassé, on lui a pris ses biens. Il continue à travailler, à faire des poupées dans son logis près de l'église des Augustins. Il livre la dernière sculpture le 12 mars, disparaît définitivement des comptes de la fabrique. Et puis tout de suite, des manœuvres arrivent et nettoient les immondices dans l'hôtel du Haut-Doyen. Et donc, je disais tout à l'heure qu'Achille Desvilles pensait qu'on lui avait pris ses biens. Or, j'ai pu trouver dans le tabellionnage qu'en 1500, un certain Jacquet Viard possède une terre à Marbeuf que son père, Huchier, et il est bien indiqué qu'il s'appelait Philippe, donc Philippe Auviard, avait acheté en 1458. Donc il les avait achetés en 63, c'est-à-dire au moment où il avait été ajourné pour la première fois. Donc visiblement, il assurait ses arrières. Mais donc, il a continué à avoir cette terre. Alors peut-être qu'on ne l'a pas su, peut-être qu'on lui a pris les biens qu'il avait à Rouen, mais qu'on ne l'a pas su. En tout cas, il continue d'ailleurs, son fils indique que son père est huchier, ce qui veut dire que la réputation de son père n'est pas mauvaise, puisqu'il peut continuer à se prétendre huchier. En tout cas, il est parti, et donc il faut passer à un deuxième chantier, qui est celui de Pierre Raymond. Je vais peut-être passer rapidement après. Donc Pierre Raymond, c'est assez intéressant, parce que, en fait, toute l'affaire de Pierre Raymond commence avec un certain Jean Herman. Jean Herman, qui est entré dans l'atelier de Philippe Auviard pour 5 sous par jour. Donc, vous le voyez, il est là, il arrive en 65-66. Et tout de suite, les relations entre Jean Herman et Philippe Auviard ont été difficiles, à tel point que, je le disais tout à l'heure, il finit par travailler pour Philippe Auviard, mais dans l'atelier de la chaire de l'archevêque, la chaire épiscopale. Donc, vous voyez, il est là pour 67, 68, bon, 69, il revient, mais là, il se passe autre chose. Donc, on a l'impression que ce personnage, Jean Herman, a fait un travail de sape auprès des chanoines pour leur dire que ça n'allait pas, que c'était le travail que faisait Philippe Auviard était mauvais, que les mesures étaient mauvaises, que le bois était maltraité, etc. Alors, ce personnage, c'est le fils d'un premier mariage de la femme d'un personnage qui s'appelle Pierre Raymond, d'où l'atelier de Pierre Raymond. Et en novembre 1467, il a été envoyé par les chanoines en Picardie avec son frère pour recruter des huchiers. Alors, il ramène son beau-père avec ses trois fils et sa femme, mais il ne les ramène pas de Picardie, il les ramène de Cambrai. C'est-à-dire qu'il savait parfaitement, quand il est parti, soi-disant, en Picardie, qu'il allait chercher son beau-père, qui était lui aussi huchier. Et donc, il les ramène afin de parfaire, c'est-à-dire de finir, et de mener à fin l'œuvre des chaires. Et donc, en janvier 1468, Pierre Raymond, avec Jean Herman et deux autres huchiers, passe plusieurs jours à faire les calibres pour savoir si les dossiers des dites chaires étaient de semblables mesures, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont là pour vérifier le travail de Philippe Auviard et en fait pour le dénigrer. Et en février, donc, il participe à la visite des chaires qui avait été faite par Philippe Auviard, et le 1er février 1468, officiellement, Pierre Raymond remplace Philippe Auviard, et comme Philippe Auviard, évidemment, n'est pas content, défense lui est faite que lui ou ses enfants ne disent ou fassent dire quelconque que ce soit qui tourna au préjudice des huchiers nouveaux venus au dit atelier. Donc on n'a pas le droit de dire du mal des nouveaux, on n'a pas le droit de dire ils ne sont pas meilleurs que moi, ils sont finalement, ils ont juste voulu ma place, etc. On ne peut pas dire quoi que ce soit. Et donc, dès le 22 mars, il est noté que Pierre Raymond est à présent maître de l'œuvre des chaires. On lui paye ses frais d'installation, 24 livres, ce qui n'est pas rien. On lui donne un poinçon, c'est-à-dire un tonneau de vin vermeil. Et donc, Philippe Auviard est obligé par deux sergents de rendre les clés et les autres choses qui ouvrent dans l'atelier des stalles. Et donc, l'atelier de Pierre Raymond, vous le voyez, est composé de 19 puis de 22 huchiers. Et vous remarquez qu'il n'est pas venu tout seul, parce qu'il y a Pierre Raymond, Jean Hermond, Marc Raymond, Autain Raymond, donc il est venu en famille, hein, vraiment, il savait ce qu'il faisait. Et puis, donc il est venu avec son atelier, ça c'est classique, hein, très souvent quand un ouvrier arrive sur un chantier, il vient avec ses propres ouvriers, et on voit Étienne Lescachier, Jean Lesmarais, Alardin Glacé, Laurent Noël, Thierry Allemand, Pierre Gamache, tout ça, ce sont des gens qui étaient sur le chantier de Philippe Auviard, qui avaient été mis à la porte quand on les a mis hors de l'atelier, qui ont refusé de travailler à la pièce et qui reviennent là, mais qui reviennent avec des salaires moins élevés. C'est-à-dire que, par exemple, Gamache, qui a toujours gagné 4 sous 6 deniers, passe à 3 sous 9 deniers. Pierre Raymond, lui, reste à 5 sous 10 deniers, comme l'était Philippe Auviard, comme son beau-fils, et donc on voit ici qu'ils sont deux à toucher 5 sous 10 deniers, donc ça doit coûter quand même un peu plus cher pour le chapitre. Alors, on va leur faire des cadeaux à eux aussi, donc pendant la semaine peineuse, c'est la semaine qui est juste avant Pâques, normalement il y a 3 jours, on leur paye 6 jours, on leur paye le vin de la Saint-Martin, pas de salaire d'hiver, mouton de l'Ascension. Alors, ils reprennent toutes les pièces défectueuses, ils utilisent des tenons pour les pièces montantes. Pierre Raymond fait les traits des voûtes des dites chaires. Donc, vous voyez, c'est toujours ces parties hautes hein, qui ont disparu, mais qui apparaissent là. Donc, sur une main de papier, il fait des dessins pour montrer comment ce sera. On surveille la qualité des outils. On met en place, dès le mois de mai 1468, les stalles du côté gauche du cœur. Ce qui veut dire, par conséquent, que les pièces qu'on a récupérées, celles qui avaient été faites par Philippe Auviard, ne sont pas si mauvaises que ça. Parce que là, il s'est passé 6 mois entre les deux. Donc il y avait quand même, peut-être qu'il y a eu une assez grande injustice, enfin, une petite injustice dans l'élimination de Philippe Auviard. On utilise des barres de fer, et donc, c'est ce que je disais, le travail précédent est facilement réutilisable, et malgré tout, les chanoines trouvent que ça ne va pas encore assez vite, parce qu'ils ont lancé des travaux dans la tour Saint-Romain. Et évidemment, il faudrait que le premier chantier soit fini. Et donc, à partir d'octobre, on les fait travailler la nuit à la chandelle, après l'heure accoutumée. Et là, c'est pas terrible, parce qu'on les paye 4 deniers par heure supplémentaire. Donc, c'est beaucoup moins que ce qu'ils gagnent dans une journée normale. Donc, ils font du 12 à 15 heures par jour. Dans l'étude du règlement des maçons que j'avais faite, j'avais constaté qu'en moyenne, à cette période-là, c'était 11 heures par jour. Donc, 12 à 15 heures par jour, hein, ça signifie quand même beaucoup. Alors, les salaires sont en baisse. Par exemple, le 26 décembre, normalement, c'est une demi-journée, on leur paye seulement 3 heures, c'est-à-dire 12 deniers, au lieu des 60% qu'on aurait dû leur donner sur 4 sous 6 deniers, ça aurait dû faire 3 sous, quelque chose comme ça. Là, non. Les retards, quand on arrive en retard, on n'est plus payé. Et puis, on revient seulement en janvier 1469 salaire à la journée. Alors on essaye de trouver encore des huchiers pour que ça aille plus vite, on envoie des gens à Abbeville, mais on trouve toujours rien. Alors en novembre, ils font 13 dossiers, et pour les remercier, les chanoines leur donnent 5 sous 4 deniers, et on donne 6 aunes de drap à Pierre Raymond et Jean Hermand, donc là encore pour se faire une belle robe, pour être élégant. On souhaite finir pour Pâques, mais finalement, c'est seulement dans la semaine du 1er mai que le chantier est pratiquement terminé. Donc un repas est offert à ceux qu'on appelle désormais des chériers, en présence de Guillaume Pontis, c'est le maître des œuvres de maçonnerie de la cathédrale, et on dit que ce repas est fait pour faire diligence de terminer leur ouvrage. Donc vous voyez, théoriquement, c'est fini, mais c'est pas vraiment fini. Alors, les plâtriers continuent à travailler au mur, les sculpteurs font les dernières mises au point, et puis on fait une mise en place du côté droit, on utilise des bordilandes pour faire des moules, etc. Mais en mars 1470, il y a encore des finitions, et les chanoines sont mécontents. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils ont fini, bien sûr, mais ils ne disent pas qu'ils ont fini. Donc ils font traîner, parce que chaque fois c'est 5 sous 10 deniers par jour, c'est 4 sous 9 deniers. Donc évidemment, c'est l'erreur d'avoir pris des salaires à la journée plutôt que d'avoir pris ce qu'on appelle à l'époque un prix fait. Et donc finalement, le maître de l'œuvre de la fabrique dit, bon, il faut licencier les ouvriers, et c'est le 4 janvier 1471, donc 14 ans après le début de l'atelier de Philippe Auviard, que Pierre Raymond et son atelier sont renvoyés, parce qu'on ne pouvait plus les garder, faute d'argent, c'est ce que dit le texte en latin, mais parce qu'en fait, on a commencé à travailler à la tour Saint-Romain. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, parce que... pas trop loin. Alors, il y a un troisième chantier, c'est celui de la chaire épiscopale, qui est mené par un personnage qui s'appelle Laurent Adam. Donc, la chaire épiscopale, elle est là. Hein, dans, vous voyez, ça, c'était au 18e, hein, tel que se trouvaient les stalles au 18e. On n'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, la stalle de l'archevêque était là. Et voilà, la stalle de l'archevêque, telle que j'ai essayé de la prendre en photo au zoom, c'est pas terrible. Mais enfin, vous voyez que c'est beaucoup plus grand que les autres stalles. C'est beaucoup plus décoré. C'est quand même un travail qui... demande, il y a, vous voyez, les angelots qui tiennent les armoires, les cuissons de la Normandie. Donc, c'est en juillet 58 qu'on avait décidé de faire une chaire pour Monseigneur d'Ormont, et donc, ça serait un chantier supplémentaire, et on voulait faire une chaire aussi riche, aussi complète, aussi belle que possible. Et c'est en 1466 seulement, au moment où le chantier des stalles semblait sur le point de se terminer, et c'était le moment où on faisait des cadeaux aux huchiers, on faisait des cadeaux à Philippe Auvia, etc., parce qu'on pensait que ça allait être fini. Donc en 1466, on lance le chantier. Alors, le chantier est mené, vous le voyez, par Laurent Adam, qui, au moment où il a été engagé, travaillait à Auxerre. Donc, vous voyez, ça vous donne une idée de l'importance du recrutement, hein, et de la circulation des nouvelles. Alors, ce Laurent Adam, c'est peut-être le Laurent qu'on avait vu tout à fait au début, avec lequel il y avait eu un premier contrat, mais qui avait finalement échoué. Il s'appelait Laurent, c'est possible, c'est pas évidemment certain. Donc, il passe un mois à faire le patron de la chaire en apparchemin et lever les traits, donc faire les dessins, particulier, et lever les moules, et il s'engage devant le tabellion du roi. Donc là, les chanoines se méfient. Ce qui s'était passé précédemment, ils ne veulent pas que ça se reproduise, ils ne veulent pas qu'il y ait un contrat, puis que finalement, il soit abandonné. Donc, il viendra achever, en fait, commencer la chaire de Monseigneur. Et donc, au mois de mai, il participe à la visite générale, vous vous souvenez, j'en ai parlé tout à l'heure, qui va aboutir à la mise à la porte de Philippe Auvia. Alors, à la différence des ouvriers qui faisaient les stalles, la stalle de l'archevêque se fait dans la loge des maçons, c'est-à-dire dans la cour d'Albane. Donc, dans la cour d'Albane, il y avait à cette époque-là une maison normande typique à colombage, avec du plâtre entre les poutres et avec un toit de toile, avec une chambre à l'intérieur qui était la chambre du maître des œuvres de maçonnerie. Et c'est dans cette pièce qu'ils vont travailler. Donc, pour y travailler, on amène du bois qui est pris dans l'hôtel du Haut-Doyen et on demande à ces manœuvres de ne pas prendre d'heure de repos le matin pour aller plus vite pour amener le bois. Donc, on veut... aller vite, hein, c'est pour cause de grande nécessité et hâtiveté. Et dès le lundi suivant, c'est-à-dire le 5 août, on commence. Donc il y a des boules de des provisions de colle, meules de grès, construction d'une cloison, afin que les gens ne viennent muser et regarder au petit atelier. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la loge des maçons, et bien les gens venaient, ils regardaient, ouais, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc ça ne leur plaît pas. Donc on décide de clore l'atelier. Donc, vous le voyez, il y a Guillaume Basset qui participe à ce chantier. Donc, il a abandonné Philippe Auviard, c'est pour ça qu'il a été remplacé par Étienne Camus. Quand il a fait la tournée de novembre 65 pour chercher des huchiers, il était en fait accompagné par Laurent Adam. Et ils ont trouvé un certain Gilet Duchâtel, tailleur en menuiserie de bois, en menuiserie si on veut, qui s'appelle Gilet Duchâtel et qui arrive en juin 66 sur le chantier. Donc, vous voyez, il est là. Et donc, les effectifs sont un peu ceux qui étaient précédemment, entre 6 et 10. Mais vous voyez que dès 66-67, Jean Herman, qui continuait à travailler pour Philippe Auviard, préférait se séparer de Philippe Auviard et être dans l'atelier de la chaire épiscopale. Mais on voit aussi qu'il y avait un des fils de Pierre Raymond qui était là. Donc là, il y avait quand même une opération d'investissement de la part de la famille Raymond, hein, pour prendre la place de Philippe Auviard, ça semble assez net. Alors ce Gilet Duchâtel est appelé aussi ouvrier en représentation d'image, et il fait donc des statuettes de bois à partir de peintures qui sont faites par un peintre flamand, qui est Hans Boissel, et donc ces histoires servent ensuite aux entreclos, à coudoirs et dossiers à partir de dessins qui sont faits justement par Laurent Adam. Donc c'est en 1468 que l'archevêque commence enfin à honorer ses promesses, c'est-à-dire il avait prévu 500 livres, il en donne 150, Et j'ai regardé attentivement les comptabilités, j'ai pas trouvé les 350 autres livres. Alors, ça ne veut rien dire, hein. C'est peut-être que ça a été mis sur une autre comptabilité qui ne nous est pas parvenue, mais en tout cas, la seule qui est mentionnée, c'est celle-là. Donc, on utilise là tout de suite du Bordiland, on ne va pas s'amuser avec du bois vert, on fait des feuilles en crête, bon, on paye le mouton de l'ascension, et très vite, la mise en place est commencée dès 1469. Les sculptures durent jusqu'en septembre, et dans les délibérations du 29 mai 1470, pour les chanoines, le travail est fini, les huchiers sont libérés du fait des autres dépenses de la fabrique. Donc, Laurent Adam fait encore quelques sculptures, et le 25 août, dans une délibération capitulaire, on lui donnera 3 ou 4 écus, et l'affaire sera terminée. Donc, vous le voyez, trois chantiers différents, qui durent au total 14 ans. Un chantier qui va à peu près bien, c'est celui de la chaire épiscopale, archiépiscopale, mais sinon, c'est quand même un chantier qui est assez intéressant. D'abord, par le coût. Les stalles ont coûté 6 485 livres au total, ce qui est considérable. La stalle de l'archevêque, 712. Bon, on peut enlever 150 si on veut. La fabrique a dépensé pour 18 900 livres au total, donc ça veut dire que les stalles ont représenté 38-40% des dépenses pendant 14 ans de la fabrique de la cathédrale. C'est tout à fait considérable, c'est un chantier très très important. Alors c'est un chantier qui est tout à fait intéressant parce qu'il est révélateur de la pénurie de main-d'œuvre spécialisée. On est dans une période où les ouvriers spécialisés manquent, même quand ce sont des travaux limités, comme de la maçonnerie. Et on est donc dans une période que j'ai appelée, un peu de manière prétentieuse, les 30 glorieuses du XVe siècle. C'est-à-dire que c'est une période où, pour les ouvriers, tout est extraordinaire. Salaire, vous avez vu, on supprime les salaires d'hiver. Salaire en hausse, on ne paye pas, on ne mentionne pas les absences. On paye des journées entières, même quand ce sont de demi-journées. On paye parfois des ouvriers, par exemple dans la seigneurie du Bec Crespin, ou à Tancarville, on engage des ouvriers qui sont embauchés à l'année. C'est-à-dire que là, c'est tout à fait remarquable. Donc, une situation qui, on l'a vu, fait un certain nombre, qui permet aux ouvriers de toucher un certain nombre d'avantages, avantages qui se réduisent quand les ouvriers sont plus nombreux. Vous avez vu, à partir du moment où on a remplacé Philippe Auviard par Pierre Raymond, les ouvriers ont vu leur salaire baisser, on a commencé à les payer à l'heure, on a baissé les salaires des demi-journées, etc. Donc ça ne dure qu'à ces peu de temps, ça dure, bon, pour ce chantier, ça dure une dizaine d'années. Disons que pour l'ensemble de la Normandie, ça dure jusqu'en 1470-1480. Alors ce qui est remarquable, c'est cette instabilité qui est assez rare sur les autres chantiers, même s'il y a une sorte de noyau dur d'ouvriers qui reste là. Et surtout, ce qui est tout à fait remarquable, hein, c'est de voir que là, on a un travail qui est largement artistique, mais qui est fait par des gens qui sont considérés comme des artisans. C'est-à-dire que la différence artisan-artiste n'apparaît pas. Lorsqu'on fait venir des sculptures qui ont été faites par des ouvriers extérieurs au chantier, on les considère, ces ouvriers, comme d'autres artisans. D'ailleurs, ils peuvent entrer sur le chantier des stalles lorsque c'est nécessaire. Donc, vous voyez, ce chantier des stalles est tout à fait intéressant de ce point de vue et il est remarquable par la qualité des documents qui ont été conservés dans les registres de comptabilité de la fabrique de la cathédrale. Je vous remercie.